Les podcasts de l'Institut de France. L'entretien de la semaine. Rencontre avec un académicien.
Depuis 8 ans, son restaurant, installé dans l'écrin majestueux de la Monnaie de Paris, est reconnu comme le meilleur au monde par La Liste, un prestigieux classement international. Et forcément, ses plats, comme la soupe d'artichaut à la truffe noire ou le rouget barbet en situation, sont devenus des références célébrées aux quatre coins du globe. Vous le savez déjà, Guy Savoie est l'un des plus grands noms de la gastronomie française, un chef dont le restaurant a inspiré les studios Pixar pour le film Ratatouille. Ce que vous savez peut-être moins, c'est qu'il s'est également retrouvé au programme du Bac d'Histoire Géo en 2023. Et dernière consécration en date, il a fait une entrée remarquée à l'Académie des Beaux-Arts, devenant le tout premier chef à intégrer cette prestigieuse institution l'année dernière, en 2024. Guy Savoie, bonjour.
Bonjour.
Nous sommes vraiment très heureux de vous recevoir aujourd'hui dans notre studio à l'Institut. On est vraiment à quelques mètres
on est
de la Monnaie. Vous êtes venu à pied, j'imagine.
On est vraiment voisins, oui.
Alors, si nous ne sommes pas dans votre cuisine, on va tenter aujourd'hui de comprendre ce qui se joue derrière vos créations. Comment naît une assiette Guy Savoie, ses goûts, ses textures et bien sûr ses émotions. Mais d'abord, pour commencer, vous êtes l'un des plus grands chefs au monde, je l'ai dit, et pourtant vous récusez ce terme-là de chef que j'ai utilisé tout à l'heure dans mon introduction. Vous préférez qu'on dise cuisinier? C'est pour garder les pieds sur terre?
Non, chef, c'est... Bon, chef, bien sûr, chef, on peut le dire, pour pas en un terme culinaire, on peut le mettre à toutes les sauces. Hein? Donc, je préfère le mot cuisinier, qui est le... Ben oui, qui est mon métier, en fait. Je suis cuisinier, fier de l'être, et ravi de faire ce métier deux fois par jour, pour chaque table et pour chaque convive.
Ouais. Votre maman aussi était cuisinière, elle tenait également un restaurant. Pourtant, votre famille, elle ne vous a pas forcément poussé dans
non,
cette voie-là.
Non, mais vous savez, remettez-vous 60 ans en arrière, quand vous étiez un élève plutôt pas mal, quoi, vous passiez de classe en classe sans problème, et que vous annoncez un jour, moi, je vais être cuisinier. Alors là, vous imaginez la levée de bouclier, bien sûr, des professeurs qui ne pouvaient pas comprendre, eux qui se prenaient... qui se prenait pour des intellectuels, comment peut-on choisir un métier manuel? Voilà, et puis, bon, ben, j'ai tenu tête avec quand même beaucoup d'interrogations, parce que, vous savez, lorsque vous avez une coalition, à la fois familiale, à la fois professorale, à la fois vos copains d'école, tout simplement, qui vous disent, mais quelle idée, quoi.
Pourquoi tu t'embarques?
Quelle idée de devenir cuisinier? Je dis, ben oui, mais moi, je... Voilà, donc j'en ai jamais démordu. Mais enfin, le point culminant, quand même, de cette désapprobation, c'était une psychologue. Parce qu'à l'époque, pour entrer en apprentissage, il fallait, je dis bien, subir des tests psychologiques qui, pour bien les formaliser, se passaient à la mairie, en plus. Vous voyez, donc, bon, boum, on était... Voilà. Et là, cette dame me fait ranger des cubes, enfin, bouger des cubes pendant 10 minutes. Et à l'issue de ces 10 minutes, la sanction tombe. Vous n'êtes pas fait pour un métier manuel, encore moins dans l'alimentation.
10 minutes pour décider d'un destin.
Heureusement, la rébellion était là. Et je lui dis, écoutez, c'est pas en me faisant bouger des cubes pendant 10 minutes que vous allez... me faire changer une idée que j'ai en tête depuis des années. Et c'est assez amusant parce que, bon, vous parlez de l'élection à l'Académie des Beaux-Arts. Eh bien, je vais vous dire, le premier symptôme, lorsqu'on m'a téléphoné, c'était une douleur terrible dans le dos. Terrible.
Pourquoi ?
Je ne sais pas. Je n'ai pas d'analyse. Mais surtout, dans les jours qui ont suivi, j'avais l'impression de revivre mon adolescence. C'est-à-dire... tous les événements de l'adolescence, tout, mais se bousculait dans la tête comme si tout s'était passé hier. C'est-à-dire, la psychologue, ça m'est revenu, mais je me voyais en train de bouger ces cubes, certains professeurs dont je me souvenais parfaitement du nom, qui me disaient tout le mal qu'ils pensaient de cette décision, tout ça est revenu en surface. Alors, j'en ai parlé, à un de mes clients un peu spécialisé dans la psychiatrie.
Alors, quels sont leurs diagnostics?
Alors, j'ai dit, écoutez, ça veut dire que vous avez enfoui ça bien au fond de vous et que tout ça est ressorti, quoi. Vous aviez mis une chape sur tous ces souvenirs, sur tous ces moments qui ont dû, évidemment, être des moments de souffrance. Et cette élection a libéré tout ça, quoi, en disant, mais pourquoi avez-vous dit tout ça? Pourquoi m'avez-vous... mis dans le doute, parce que c'est ça, vous êtes ado, le doute déjà...
Oui, on n'a pas un esprit encore critique très fort.
Oui, vous êtes en permanence dans le doute, quoi. Ouais. Bon, et si tous... Enfin, la question qui revenait sans arrêt, moi. Et si tous ces gens-là avaient raison? Ben non, ils avaient tort.
C'est vous voilà. qui aviez raison. Et vous avez bien fait de persévérer. Alors, vous avez 16 ou 17 ans quand vous entrez en apprentissage chez les frères Trois Gros, à Roanne. Mmh. Des frères qui ont bousculé la cuisine classique dans les années 70. Vous, c'était ce souffle de nouveauté que vous recherchiez?
Moi, ce que je recherchais, en fait, ce que j'avais en partie trouvé, parce que j'étais incapable de l'analyser à cette époque-là, mais qu'est-ce qui m'attirait, en fait, dans la cuisine, au-delà d'une gourmandise évidente, développée par les talents de ma mère, qui faisait une cuisine tellement savoureuse que, voilà, pour moi, ça devenait obsessionnel, quoi, le déjeuner, le dîner, la pomme à la récré,
ouais,
parce que le matin, il y avait un rite, c'était toujours mon père qui préparait le petit déjeuner, j'ai un frère et une sœur, donc qui préparait le petit déjeuner, il y avait toujours des restes de tarte qu'avait préparé
la veille,
voilà, qu'avait préparé ma mère, et mon père nous mettait une pomme dans le cartable, pomme suivant la période de l'automne ou de l'hiver, donc on avait des différentes variétés de pommes, et moi dans la première partie de la matinée, donc avant la récréation, je pensais à cette pomme. C'était ma première ponctuation plaisir de la journée. Et après la récré, mon esprit était occupé par l'interrogation suivante. Qu'est-ce qu'on va avoir ce midi, quoi? Et dès que j'arrivais à la maison, aux grandes dames de ma mère qui toujours me disait « Mais pourquoi ?» Enfin, elle ne supportait pas que je soulève les couvercles pour déjà voir ce qu'il y avait et puis même goûter. Voilà. Donc c'était quelque chose de... Pour moi, c'était primordial. Et aujourd'hui, je comprends pourquoi. Parce que dès que j'ai su lire, écrire et compter à l'école, je me suis ennuyé. Ennuyé parce que... Enfin, cette sensation qu'on apprenait tous la même chose au même moment, et sans pouvoir vraiment expliquer, j'avais l'impression d'être formaté, quoi. Et je voulais pas ça. Et puis je voulais du concret. Et je voulais de l'instantané. Enfin, ce que veulent, moi, je vois bien tous les stagiaires qu'on a, hein, en particulier ceux de troisième, ouais. Ils sont fascinés. Ils sont fascinés par ce concret, cet instantané. Concret, ben oui, les produits, vous les avez. Vous les touchez. Et puis après, instantanément, vous les transformez. Et tout aussi instantanément, de l'autre côté de la cloison, c'est-à-dire dans la salle à manger, vous avez des convives qui déguste ce que vous venez de préparer avec une réaction tout aussi instantanée.
C'est super gratifiant, ça.
Moi, ben voilà, moi, ça, j'ai toujours le même émerveillement avec ça, quoi. Cette chaîne formidable de tous les artisans de la terre et de la mer qui nous fournissent les produits, cette transformation magique, parce qu'elle est magique. Hein. Vous imaginez, prenez un poulet. Tout le monde connaît un poulet. Vous l'avez là devant vous, si c'est en plus un poulet de Bresse ou un poulet de belle origine. C'est une matière inerte. Bon, si c'est une poularde, on a la chance d'avoir une peau très satinée, très agréable au toucher. Mais à peine une heure après, vous avez un produit qui dégage une odeur magnifique, qui a une couleur dorée magnifique et que vous avez envie de manger, quoi. Donc, si ça, ce n'est pas de la magie, il faut qu'on m'explique ce que c'est.
J'ai déjà faim, on n'a pas commencé à parler de votre plat.
Et bon, là, je vous parle d'une heure de préparation, mais pour des filets de rouget, par exemple, puisque vous avez la gentillesse de parler des rougets, c'est quelques secondes dans la poêle où vous passez, vous changez à la fois en quelques secondes, vous changez la couleur, ce mélange de rose orangé un peu terne qui, sous l'effet de la cuisson, devient presque fluo. Et puis cette saveur, quoi, qui est... Et encore, le rouget a un avantage, c'est qu'il peut se manger cru. Mais si tout se mange cru, le cuisinier n'a plus grand-chose à faire. Donc voilà. Non, c'est ça. Moi, c'est cette... Aujourd'hui, je suis convaincu que, avec une forme d'inconscience de l'adolescence, j'ai choisi ce métier intuitivement, instinctivement, mais les vraies raisons étaient là, quoi. Aujourd'hui, avec un peu plus de recul, je me dis, mais oui, mais c'est ça qui m'a touché. C'est ce concret, cette instantanéité permanente et cette possibilité d'interprétation. Bien sûr que les techniques de base sont les mêmes pour tout le monde, mais la réalisation, après, elle est directement liée à vos envies, à votre sensibilité, tout ça. Donc, vive la cuisine. Et ça fait que 56 ans, hein, que je fais ce métier.
On vous attend pour les 50 prochaines années encore.
56 ans, mais il faut que je l'explique. Bon, comme dans ces métiers, on fait deux journées en une, ça fait donc 112 ans que je travaille. Voilà. Mais c'est pas une
Et complainte. Vous avez la forme, hein ?
Bah, écoutez, c'est peut-être grâce à la cuisine.
Vous avez tracé votre chemin après avoir travaillé chez les plus grands. Vous ouvrez votre premier restaurant en 80. Vous allez loin et vite. Aujourd'hui, avec le recul que vous avez sur votre parcours, comment vous la définissez, la pâte Guy Savoy, gustativement parlant ?
Alors, je sais pas, c'est... Bon, normalement, c'est aux convives à ressortir l'analyse.
Moi, j'ai pas eu la chance de goûter vos plats encore.
Oui, parce que le vrai discours du cuisinier, en fait, il est dans l'assiette. Ouais. C'est tout ce que je vous raconte là. Oui, d'accord, c'est bien, mais je vous parle de concret, d'instantanéité, et ce sont que des paroles. Alors que le vrai discours du cuisinier, c'est une fois que le plat est devant vous, que la recette a été réalisée, et là, vous savez. Bon, alors, en quelques mots, moi, je suis un intégriste du produit. On a la chance d'être dans un pays où il y a la plus belle diversité. Mais diversité, ça ne veut rien dire si ce n'est pas dans la qualité. Donc, on a la plus belle diversité dans la qualité. Et cette diversité ancestrale, historique, c'est dans notre ADN, a généré tous ces savoir-faire. Ça, on est le seul pays à avoir de tels savoir-faire en boulangerie, en cuisine, en pâtisserie, en charcuterie, en boucherie, en fromagerie, en vin, enfin tout. Parce qu'on a... On a cette diversité de produits qui a poussé les hommes et les femmes à profiter de ce socle tellement singulier qui fait rêver la planète entière. Donc, ce socle de produits... Le mot produit, ça peut paraître un peu, comment vous dire, péjoratif, mais bon...
Réducteur.
C'est, voilà. Quand je parle de produits, ce sont des choses exceptionnelles. Une volaille de Bresse, c'est une volaille exceptionnelle. Mais c'est le travail et l'observation de l'être humain qui a déterminé que sur une zone très humide qui est la Bresse, très humide, donc qui confère au sous-sol plein de petits mollusques, en mettant un type de volaille bien particulier, on allait obtenir ce qui est consacré comme étant la meilleure volaille du monde. Donc, la même chose si on prend les vins en Bourgogne, le cépage du blanc, si on met la ligotée de côté, c'est le chardonnay. Ce chardonnay, par la magie des terroirs, mais les terroirs, qui les a délimités ? Encore une fois, ce sont les hommes et les femmes qui ont repéré qu'une parcelle allait donner tel type de vin avec le même cépage, et que la parcelle d'à côté, parfois séparée par un simple chemin, va donner un autre type de vin. Tout ça, donc, c'est unique au monde. C'est... Après, bon, il y a... Beaucoup de pays font du vin, mais on va dire un peu technologique. Nous, on a cette capacité à profiter de cette diversité, à profiter des fois là, des ingrédients, des éléments de la terre. Vous imaginez, vous savez, enfin, je reviens à moi. On a parlé de la Bourgogne, mais si on peut parler, on peut également parler de l'Alsace, où là, on a une multitude de cépages différents, une multitude de terroirs différents.
Vous en avez un préféré, un produit de terroir
Je ne peux pas vous parler de diversité et dans cette diversité unique au monde, sortir un individu. C'est moi, j'ai envie de profiter de tout. J'ai envie d'être... Voilà. Vous savez, et la première question que je me pose, souvent on me dit, mariage idéal entre un plat et un vin, la première question, ce n'est pas avec quoi, moi, mais c'est avec qui. Je reprendrai ces mots de Frédéric Dard qui fait... dans un texte magnifique qu'il a intitulé « L'apothéose du goût » et qui célèbre Château Yquem. Je crois qu'il résume tout ce qu'est le goût, la célébration du goût, parce que ce n'est pas une dégustation, là, c'est une célébration. Il dit « Pour célébrer Yquem, il faut être trois. La bouteille, un ami, encore faut-il un ami au grand millésime. » Il ne parle pas du millésime de la bouteille, il parle du millésime d'un ami, sur le visage duquel vous pouvez lire vos propres sensations. C'est merveilleux.
En parlant de mariage, justement, de saveurs, en plus de 50 ans de cuisine, vous avez inventé des plats qui sont aujourd'hui devenus des références. Parmi ces plats signatures, j'ai parlé tout à l'heure de la soupe d'artichaut à la truffe noire et brioche feuilletée. Artichaut, truffe noire, c'est pas une association qu'on ferait spontanément. Et c'est là où on rentre dans la magie de la cuisine. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Guy Savoy quand vous cherchez à faire des associations de saveurs ? Est-ce que l'idée surgit avant d'essayer ? Ou alors c'est le contraire ? C'est l'expérimentation ? Comment vous faites ?
Avant l'idée, il y a une envie. Il ne peut pas y avoir un plat s'il n'y a pas une envie. Alors l'envie, elle naît où ? Bien sûr, allez, je vais dire trois quarts du temps sur un marché, ouais, ou sur les marchés. Voilà. Mais après, une idée, elle peut arriver, je ne sais pas moi, après une séance à l'académie, la visite d'une expo, une flânerie sur les quais ou dans les rues de Paris, et d'un coup, vous avez une envie. Ben, cette envie de la pomme à la récré, et c'est cette envie qui donne l'idée. Et après, le plat arrive naturellement. C'est pas une prise de tête, un plat, quoi. C'est quelque chose... J'ai envie de dire, c'est très primaire, quoi. Enfin, en tout cas, c'est ma vision. Si je dois essayer une multitude de choses, et puis de temps en temps, ça tombe juste, pour moi, ça ne fonctionne pas du tout. Il faut que moi, j'ai envie de manger tel ou tel produit. Bon, si on parle des huîtres en âge glacé, par exemple... tout le monde connaît l'huître. Tout le monde sait que c'est inconfortable de manger une huître. Parce qu'on ne sait jamais où va l'eau. Voilà, c'est pas... Soit vous faites une aspiration très, très disgracieuse, ou alors vous faites... Bon, et je me suis dit, mais attends, il y a un truc qui est très simple. Je vais donner de la consistance à cette eau.
Et
tous les cuisiniers savent que pour donner de la consistance à un liquide, il y a une technique de base qui s'appelle la gelée. Voilà, donc j'ai donné la consistance à cette eau. Et maintenant, je ne modifie pas les ingrédients originels de l'huître, qui sont la bête, plus l'eau. Voilà, l'eau, je lui ai donné une consistance, donc elle devient civilisée, quoi. Je dirais, ça a même tendance, parce que vous pouvez en même temps avoir l'huître et cette gelée. Il y a un respect du produit, il y a une constance. Vous êtes sûr d'avoir cette gelée qui a le goût d'eau d'huître. Vous êtes sûr d'avoir en même temps que la bête. Ce qui a fait dire au poète Léon-Paul Fargue, lorsque je mange une huître, j'embrasse la mer sur la bouche.
C'est magnifique.
On ne faut jamais se départir de ça. Le produit, on a la chance, encore une fois, je le répète, je le ressasse, c'est d'avoir les plus beaux produits, quoi. Puisqu'on a parlé de l'huître, si vous faites tout le littoral français, aussi bien façade atlantique que méditerranée, mais rien qu'avec différentes origines d'huîtres, vous pouvez avoir des sensations totalement différentes. Mmh. Et vous pouvez même avoir aujourd'hui une plante qui s'appelle Mertensia maritima, enfin l'huître végétale, où vous mangez cette feuille qui a le goût d'huître. Ou la bourrache qui a aussi le goût d'huître. Enfin, bon.
Dans le cas de votre huître en âge glacé, granité, algues et citron,
oui.
Cette huître, elle vient par exemple de Bretagne.
Oui,
j'en
ai qui viennent de Bretagne, Pratarcoum, ouais, chez la famille Madec, et d'autres qui viennent de l'étang de Thau, vers Sète, de la famille Tarbourièche, qui lui a inventé un système, c'est-à-dire qu'il, comme il n'y a pas de marée dans cet étang, il sort régulièrement les huîtres de l'eau, il a inventé tout un système. En fait, il fait souffrir les huîtres pour qu'elles soient plus charnues, pour qu'elles soient plus savoureuses. Et voilà. Mais après, on pourrait avoir des huîtres normandes qui seront un peu plus salées, ou après descendre sur marraine avec un goût de noisette. Enfin, tout, c'est pour ça qu'on est, vraiment le pays de la gastronomie. Il y a des cuisines tout autour du monde. Et j'ai par habitude de dire que il s'est passé plus de choses, je dis bien autour de la planète, je mets la France hors jeu, autour de la cuisine ces 30 dernières années que les 2000 ans qui ont précédé. Alors, je parle des cuisines, mais nous, on reste, la singularité de la France, c'est sa gastronomie. Pour moi, la gastronomie, c'est ce merveilleux puzzle où, entre tous les gens que je vous ai cités, depuis les pêcheurs, les cultivateurs, les agriculteurs, les éleveurs, enfin, tout ces artisans de la terre et de la mer, et après associés à tous ces savoir-faire.
J'en reviens à votre inspiration, parce que vous disiez tout à l'heure que vous la puisez dans des expos, dans
partout,
la littérature.
La vie, dans la vie.
Mais est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de plat qui a surgi comme ça dans votre tête après justement
Alors, je vais vous dire, il y a quelques années, il y avait des grandes affiches dans Paris publicitaire où c'était Colors of Benetton. Ça m'a donné l'idée de faire un plat, Colors of Caviar, où on retrouve dans une petite verrine les mêmes couleurs que... multicolore, c'est pour ça que j'appelle Colors of Caviar. Et ça, c'est en voyant des affiches de pub. Hein, c'est des magnifiques affiches. Et, voilà. Et ce serait d'ailleurs amusant de retrouver puis de servir le Colors of Caviar à côté de ces affiches publicitaires Colors of Benetton. Voilà, voilà une idée de naissance de plat. Bon, l'huître, la gelée, qu'est-ce qu'il y a ? Bon, la soupe d'artichaut, c'est un peu... alors, ça doit être un peu plus compliqué. Bon, artichaut et truffe, ça existe au XVIIe siècle. Je n'ai pas inventé le truc. Bon, et il se trouve que ma mère m'a raconté que lorsque j'étais bébé, la seule purée de légumes que je mangeais, c'était l'artichaut. Bien sûr que je m'en souviens pas, mais quelque part, ça a dû remplir une case. Ça, c'est, je dirais, ça peut être un souvenir d'enfance. Mais surtout, bon, avant de rentrer en apprentissage de cuisine chez les Frères Trois-Gros, j'ai fait un apprentissage de pâtisserie chez M. Louis Marchand à Bourgoin-Jallieu, la ville
en
où j'ai grandi. Oui, un apprentissage de pâtisserie. Et la pâtisserie de M. Marchand avait une spécialité qui était la brioche feuilletée aux fruits confits. Et moi, j'étais fasciné par cette brioche, qui était, d'après moi, le summum de la gourmandise. Et dès que j'ai su un peu faire des choses en cuisine, j'avais toujours cette brioche en tête, et j'ai dit, il faut que j'aie une version salée. C'est vrai, on n'est pas forcément habitué. Pour nous, la brioche, partie des viennoiseries, c'est le matin au petit-déj, ou éventuellement l'après-midi aux 4 heures, ou au tea-time. Donc, j'ai mis au point cette brioche, qui était... les fruits confits avaient été remplacés par des champignons et de la truffe. Et puis... Je dirais le... Je ne sais pas si on peut parler de fulgurance, mais en tout cas, le... C'est venu tout seul, quoi. J'ai dit, mais voilà ma soupe. Si je veux qu'elle ne soit pas banale, il faut que je mette la brioche à côté. Et puis, il faut que je dise aux convives, trempez votre brioche dans la soupe, quoi. Ce qui est en dehors de tout principe de savoir-vivre. Imaginez, trempez là. Ouais. Et ce plat est né. Mais... Moi, à ce moment-là, je ne sais pas que ça va devenir le plat emblématique. Je sais que c'est, pour moi, une représentation parfaite de la gourmandise. Et il y a même un habitué de la maison qui m'a donné cette définition, d'ailleurs, qui, je ne sais pas si elle me va bien, mais elle me plaît bien, en tout cas. Et il m'a dit, écoute, les artichauts, c'est tes origines modestes. La truffe, c'est ta quête d'excellence. Et la brioche, c'est ton âme d'enfant. Et moi, je trouve, voilà. Et puis, je rajoute, l'artichaut est le seul légume qui a un cœur. Voilà. Tout est dit.
Je reviens à le plat que vous avez cité précédemment, Colors of Caviar. Il figure dans votre menu que vous proposez à la Monnaie, couleur, texture et saveur. Dans ce menu, il y a 12 plats qui se succèdent.
Très séquent, parce qu'on rajoute toujours en plus. Suivant le jour, on rajoute une bouchée à chaque fois dans ce qu'on rajoute.
En tout cas, voilà, au moins 12 plats. Comment on compose un menu ? Est-ce qu'il y a un protocole ?
Oui, c'est une construction, un menu. Ouais. Un menu ne doit surtout pas être une succession de spécialités. Ce n'est pas du tout ça. C'est une construction où on essaye d'avoir une progression à la fois dans les goûts, enfin, goût, sapidité, et à la fois dans les sensations, c'est-à-dire ce que j'appelle, moi, l'approche physique du goût. L'approche physique du goût, c'est, dès que vous avez quelque chose dans la bouche, c'est de détecter le mou, le croustillant, le tiède, le moelleux, enfin, tout ce qui participe physiquement au plaisir. C'est-à-dire, physiquement, si je veux illustrer, c'est le sorbet fraise que vous prenez à la plage, il fait très chaud et tout. Quelle est votre première sensation de plaisir ? C'est le froid. Donc, physique. Après, le goût, bien sûr, le goût de la fraise, si en plus il est bon, c'est génial. Mais le premier, je vais même parler de réconfort, le premier confort, c'est le froid. C'est le chocolat chaud ou le thé ou le truc après une journée à la montagne ou le truc à 4 heures, le chocolat. Cette chaleur de la tasse et la chaleur lorsque vous ingérez, c'est le premier plaisir. Quoi.
Ouais, c'est très corporel.
Donc, oui, donc voilà. Donc, cette construction, elle part, bien sûr, de. On démarre un peu gentiment, et puis peut-être mono-consistance, comme l'huître, et puis, quoique mono-consistance, il y a une différence entre la fermeté de l'huître et, je dirais, le moelleux de la gelée. Mais après, plus vous avancez dans le menu, vous avez d'abord la mer, après vous passez à la terre avec la truffe et tout, viande, volaille, tout ça. Donc, tout ça est une construction.
Et vous les composez toujours comme ça ? C'est-à-dire que vous commencez toujours par la mer, ensuite...
Oui, c'est bon, c'est... En fait, je fais simple, quoi.
Ouais.
Entrée, poisson, viande, voilà.
Mais justement, parce que, est-ce que vous tenez compte de l'air du temps ? Aujourd'hui, on parle beaucoup d'un retour au végétal, au, je ne sais pas, des produits fermentés, des épices. Vous
en tenez compte ? Alors, mon premier livre que j'ai fait en 82 ou 83 chez Plon s'appelait Légumes gourmands. Bon, Donc les légumes, fait, pour...
Ouais.
Ben, pour une raison très simple, mon père était jardinier, donc moi, si je ne fais pas attention aux légumes, c'est que voilà. Et puis j'aime les légumes. Mais encore une fois, je ne veux pas me restreindre à un type d'aliment. Je veux dire, on a la chance d'avoir cette diversité. Cette diversité doit nous aider à construire et profiter de tout. Mais de tout. Du chou, des carottes, des navets, des champignons. Enfin, on donne une deuxième vie à la nature, quelle qu'elle soit. D'élevage, de production, de tout, ou sauvage. Hein, les champignons, les fraises des bois, les framboises, enfin, les myrtilles, enfin, tout. On est là pour donner une deuxième vie à tous ces produits.
Donc, réincarnation des.
Donc
des
voilà,
aliments.
Les morilles, il faut aller les trouver, quoi. Hein, je ne sais pas si vous êtes déjà allé partir à la cueillette aux morilles. Moi, j'ai la chance d'avoir un papa qui les voyait à 10 mètres. Moi, je passais devant, je ne les voyais jamais. Imaginez, c'est un produit bon, qui est très joli, cette forme d'éponge un peu, mais qui sort comme c'est le premier champignon du printemps. Il sort au milieu encore des feuilles mortes de la saison de l'automne précédent, et vous ne le voyez pas. Bon, girolle, facile. Orange, boum, si vous avez un projecteur orange dans la forêt, donc boum, vous êtes attiré. L'œil, même les cèpes, ça c'est compliqué. Le cèpe, avec son chapeau marron et tout, ils se font dans la nature et...
Faut apprendre à voir la
alors,
beauté
il est plus gros,
qui nous
voilà,
entoure.
Il est plus gros que la morille.
Est-ce que vous allez aussi vous inspirer de recettes du passé? Parce que vous avez écrit trois livres autour des écrivains et de l'histoire de la cuisine. On cuisinait très différemment au XVIe, XVIIe siècle.
Oui, mais on avait déjà les... On avait le socle de ces produits et de l'intérêt, parce qu'on s'aperçoit, en fait, ce ne sont pas des recettes de cette époque. C'est simplement Anne Martinetti, qui est co-auteur de ce livre, elle recherche dans les textes des auteurs de ces siècles tous les écrits sur la cuisine. En fait, on s'aperçoit qu'il y a... Enfin, tous les écrivains parlent de cuisine. Ce sont des chroniques formidables. J'ai fait un texte dans la revue de l'Institut de l'Académie des Beaux-Arts sur Vatel. On a quand même des personnages, je pense à Vatel, je pense à Brillat Savarin, je pense à Antonin Carême.
Oui, sur l'architecture.
Voilà, Escoffier, après plus récemment Bocuse, Troisgros, enfin toutes les... Ce qui prouve bien que chez nous, c'est pas anodin, c'est quelque chose qui coule dans nos veines. Donc, 60 ans, quand je disais que je voulais être cuisinier, si je n'étais pas né en France, je n'aurais jamais eu l'idée d'être cuisinier. À cette époque-là. Aujourd'hui, je crois qu'on peut naître partout sur la planète et avoir l'idée d'être cuisinier parce que chaque pays a pris conscience qu'ils avaient une cuisine et que de nombreux jeunes, heureusement, ont décidé d'embrasser ce métier et puis viennent souvent se former, se perfectionner ou apprendre la bonne parole en France, puisque moi, j'ai toujours 10-12 nationalités différentes dans la cuisine.
Oui, c'est ça, voilà. Vos équipes sont assez multinationales à la Monnaie de Paris. Vous avez, Guy Savoie, obtenu jusqu'à 3 étoiles Michelin. Pour les personnes qui connaissent assez mal ce système comme moi, qu'est-ce qui va distinguer un restaurant 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles? Évidemment, la qualité des produits. Mais est-ce qu'il y a, encore une fois, un protocole?
Non,
des
cases
assez... à cocher?
Non, c'est assez, bon, c'est assez flou. Bon, il faut dire que ce guide a été pendant 100 ans le seul... vraiment
juge
voilà donc aujourd'hui et depuis bon enfin en tout cas chez nous dans les années 70 on a assisté à la naissance du guide Guémillot qui a qui a rebattu les cartes et puis là aujourd'hui vous avez parlé de la liste s'appuie sur 1100 sources d'informations sur la planète c'est-à-dire tout ce qui est dit écrit et tout ce qui concerne un restaurant est traité par un algorithme. Ne me demandez pas ce que c'est, parce que j'y comprends rien. Et c'est ça, donc, c'est aussi la différence de notre époque, c'est qu'il y a une... Là aussi, il y a une telle diversité dans les jugements, parce que chaque jugement pris séparément est bien sûr subjectif. Mais quand vous en réunissez 1100, qui séparément sont subjectifs...
On atteint
en tout cas une forme d'objectivité.
Oui. Pour revenir sur ce système d'étoiles, il y a plusieurs chefs qui remettent en cause. Je pense par exemple à votre confrère qui est à côté, Sébastien Bras, a pu figurer dans le guide Michelin pour pouvoir cuisiner sans pression. Qu'est-ce que vous en pensez à titre personnel?
Ah, moi, je pense que ce métier a la chance de susciter un tel intérêt qu'il y a autant de possibilités de jugement. Donc, je vais vous dire, je ne juge pas. Moi, je fais mon métier comme j'ai envie de le faire et je ne changerai pas les ingrédients de la recette du succès de mon restaurant. C'est-à-dire, moi, c'est d'abord une situation géographique exceptionnelle, puisqu'on est près de chez vous.
Puis les quais aussi.
C'est un bâtiment, bon, 1775, bâtiment historique. J'ai la chance d'avoir des œuvres d'art en partie prêtées par François Pinault, de la Pinault Collection. Donc, après, moi, je fais régner dans cette maison une atmosphère très chaleureuse. Donc, pour moi, ce sont tous des ingrédients. Enfin, c'est ma manière de faire qui est simplement ma manière d'être. Bien sûr que je regarde ce qui se passe. Moi, j'avance avec toujours le même principe, deux fois par jour, à chaque table, pour chaque convive. Et après, bon... Parfois, je me dis, mais est-ce que c'est bien de faire l'unanimité ?
On ne peut pas.
Voilà. Mais souvent, ceux qui jugent ne laisseront jamais aucune trace.
Aujourd'hui, la cuisine attire énormément. Enfin, il existe énormément de démissions. Je pense à Top Chef, par exemple, qui réalise chaque semaine des records d'audience. Vous avez d'ailleurs jugé, soutenu des candidats. Il y a quelques années, personne ne s'intéressait.
Non, je suis, mais c'est ce que je vous ai dit. Que l'intérêt pour la cuisine a fait un bond en avant ces 30 dernières années, bien plus que les 2000 ans qui ont précédé.
Et qu'est-ce qui a provoqué ce changement, selon vous ? Pourquoi ? Pourquoi on s'intéresse beaucoup plus depuis 30 ans
Eh bien, on s'aperçoit qu'à table, on passe un bon moment. Quoi. Voilà, mais quelles que soient les conditions, que vous soyez en train de traiter une affaire, régler un conflit, un déjeuner ou un dîner amoureux, avec des amis, en famille et tout, mais c'est magique.
Je suis bien d'accord avec vous. Mais pourquoi attendre 2000 ans pour s'en rendre compte ?
Ben oui, mais on appelle ça l'évolution.
Alors, quelques mots sur votre élection à l'Académie des Beaux-Arts, pour finir. Vous êtes membre libre de cette Académie depuis novembre dernier. Vous êtes le tout premier chef à rentrer dans l'institution. On consacre enfin la cuisine au rang d'art ?
Ben écoutez, oui. Enfin...
Même titre que c'est l'architecture, la peinture, le cinéma.
C'est toujours délicat de parler de soi. D'accord, là, c'est une élection. Une élection par différentes personnes, femmes et hommes, qui excellent dans leur métier, dans leur art. Là, je dis par contre que c'est inattaquable. Quoi. Je veux dire, et puis moi, là, je reviens... Si, je veux dire... Mais imaginez, vous êtes cuisinier, bon, vous avez grandi à Bourgoin-Jallieu, cuisinier, vous avez fait bon, votre métier, on vous a dit pique-pendre sur ce métier en disant que c'était pas bon. Sous-entendu, c'est pas un métier, ou c'est pas un métier pour toi, voilà, ce qui était encore pire. Et, au bout de quelques décennies, vous êtes élu à l'Académie des Beaux-Arts. J'ai envie de dire, putain, c'est bon, quoi. C'est bon parce que c'est... Vous pouvez pas arriver à ça. Vous pouvez arriver d'avoir des tocs, des étoiles, des assiettes... Mais jamais...
Vous l'aviez jamais...
Non, je l'ai jamais...
Cherché.
Bien que les cuisines donnent sur cette aile de l'Institut. Non, et je veux dire, et quand j'ai senti que c'était possible et que c'était peut-être temps de poser ma candidature, bon, mais j'y suis allé parce que... Mais était-ce de l'audace ? Était-ce de la... Non, je crois qu'il y a... Enfin,
un petit peu quand même, parce que personne n'était...
Peut-être, peut-être. Alors, je ne suis pas du tout revanchard, pas du tout, mais une volonté d'en découdre et de dire, mais qu'attendez-vous, quoi ? Qu'attendez-vous pour reconnaître ce qui fait rêver la planète entière, c'est-à-dire la gastronomie française, qui est toujours là, dans l'un des trois premiers paramètres de choix des touristes. Mmh. La gastronomie, ils viennent en France, pas simplement la restauration, hein, pour rentrer dans une charcuterie, pour rentrer chez un caviste, chez un fromager, enfin, chez un chocolatier, chez un pâtissier, c'est... Et c'est génial, ça a marché.
En tout cas, nous, ici, nous sommes ravis que vous fassiez partie de cette académie. J'imagine que vous ferez traiteur le jour de votre installation.
Ben, je pense,
les gens vont se battre pour assister à la coupole.
Attendez, j'ai le trac parce que hier, on a assisté à l'installation...
Du chorégraphe.
Ouais. Mais c'était d'un niveau... Mais moi, j'ai le trac qui a... encore pris trois crans hier.
Vous êtes déjà en train de préparer le discours ?
Bien sûr, j'essaye de le faire le plus... C'est vrai qu'hier, quand il y a chorégraphie, quelques danseurs peuvent venir, quand c'est musique, voilà. Mais il y a quelques professions. Je ne vois pas un architecte commencer un projet sous la coupole, ou moi essayer de faire un sabayon.
Pourquoi pas pour 500 personnes.
Un sabayon pour la musique du fouet, mais bon, non, je crois que. Voilà, j'essaierai de le faire un cocktail au niveau. Voilà.
Nous sommes impatients de voir ça. Merci beaucoup, Guy Savoie.
Merci.
Les podcasts de l'Institut de France.